Je vais commencer par une question. Quand avez-vous reçu une lettre pour la dernière fois? Une lettre, non pas un email, hein, que l'on envoie rapidement, que l'on écrit rapidement et que l'on envoie rapidement. Une lettre écrite où les gens, où la personne a pris le temps de penser à vous et de réfléchir à ce qu'elle allait dire, de corriger même avec du typex. Quand, pour la dernière fois, avez-vous reçu une longue lettre manuscrite? It's been a while. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Eh bien, ce matin, je vous propose une lettre qui vous est écrite personnellement et communautairement. Une belle lettre. La lettre de Pierre, la première lettre épître, comme on dit, ou lettre de Pierre aux gens de la Galatie, ou aux gens, pardon, de l'Asie mineure, y compris la Galatie. C'est Pierre qui l'écrit. Alors, j'ai googlisé, comme on dit, et puis j'ai eu quelques images de Pierre. Et j'aime bien ces images-là, à gauche pour vous, là. Un Pierre un peu anxieux. En bas à droite, un Pierre un peu jovial. Et puis, en haut, Pierre, excusez-moi l'expression, mais un type qui a de la gueule, quoi. Alors tout le monde connaît Pierre, c'est une des figures les plus connues du christianisme, il est là à chaque blague que l'on fait sur le paradis, il se tient devant la porte du paradis, soi-disant, hein, et il vous dit si vous pouvez entrer ou pas. Et outre cette tradition, qui n'est qu'une tradition, on ne sait pas pourquoi il est là toujours dans les blagues, mais on sait aussi d'après la Bible que Pierre est un personnage. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question, quand vous pensez à Pierre, quel adjectif vous metteriez? Pierre le fougueux, le fonceur. C'est fou la technique. Solide. C'est tout? Qui a trahi? Impétueux. Pardon? Le roc. Le roc solide. Et c'est vrai. Il est à la fois tout cela, il se distingue des 12, en tout cas, ou parmi les 12, par son impétuosité, par son impulsivité, par sa réactivité, par sa rapidité aussi. Il répond vite aux questions, il s'enthousiasme aussi très rapidement. Mais le problème avec Pierre, c'est qu'il se dégonfle aussi très rapidement. Pierre est capable du meilleur comme du pire, ou disons du moins bon. Alors Pierre, un homme changeant, il marche sur l'eau quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais le problème c'est qu'il coule après, par manque de foi ou parce qu'il se met à douter ou il ne regarde plus dans la même bonne direction. Il est le premier aussi à répondre à la question de Jésus, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre a une intuition absolument remarquable, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il le fallait de la sagacité pour répondre cela. Mais 2 minutes après, il dit une bêtise. Et Jésus est obligé de lui dire « Vané rétro, Satanas, arrière de moi, Satan !» Alors il dit des belles choses, mais un peu plus tard, il dit une énorme bêtise parce qu'il veut trop en faire. C'est lui aussi qui affirme le plus fort sa fidélité à Jésus. Il dit qu'il est prêt à se battre pour lui, à mourir pour lui, mais quelques semaines plus tard, il clame haut et fort qu'il ne connaît même pas ce Jésus devant une non-dangereuse servante. Il l'abandonne, il le renie, et plutôt deux fois qu'une. Un homme capable de changement de direction tout à fait spectaculaire. Un homme avec des hauts et des bas. Un homme qui nous ressemble, avec ses actes de foi et ses doutes, ses victoires et ses échecs. C'est tout à fait nous, capables du meilleur et du moins bon. Mais il y a autre chose chez Pierre. Il y a à un moment la résurrection de Jésus. La restauration de Pierre, vous savez, sur la plage du lac de Tibériade, là où Jésus a préparé du poisson grillé et des pains pour les disciples. Et Jésus en profite pour restaurer 3 fois, et toi, m'aimes-tu ? le Pierre qu'il y a renié trois fois. Et puis, Pierre est restauré, mais il y a aussi la Pentecôte, où l'Esprit de Jésus vient sur lui comme sur les autres disciples, et on a un Pierre tout neuf, un Pierre qui devient ce que Jésus a dit de lui, un gars stable, solide, un roc pour l'Église. Et c'est lui qui va prononcer le premier sermon chrétien post-pentecôtiste, post-pentecôte. 3000 convertis ce jour-là, premier sermon chrétien. C'est Pierre qui le prononce. C'est lui qui va accomplir la première guérison sans Jésus, sans la présence physique de Jésus. C'est lui qui parle avec une autorité incroyable à Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. C'est Pierre qui va prendre cette autorité. C'est lui qui, après avoir été battu par la police religieuse de l'époque, il n'y allait pas de main morte, se trouve joyeux d'avoir été jugé digne d'être battu au nom de Jésus. Et on pourrait poursuivre avec c'est lui qui, le premier, va vers les non-juifs, qui préside aussi le premier concile de Jérusalem. C'est lui qui, selon la tradition chrétienne, serait mort, crucifié, la tête en bas, parce qu'il aurait demandé d'être ainsi crucifié, parce qu'il ne se jugeait pas digne d'être crucifié comme son Seigneur. Ça, c'est Pierre. Ce que la tradition oublie chez Pierre, c'est qu'il y a quand même des petits coins de faiblesse, même après la Pentecôte. À un moment, Paul doit le reprendre, l'apôtre Paul doit le reprendre, parce que Pierre n'a pas été courageux dans sa vie chrétienne par rapport aux chrétiens d'origine juive qui mettent une pression légaliste sur les chrétiens d'origine païenne. Et Pierre a joué sur les deux tableaux. Et Pierre a pris la tangente, comme autour du brasero devant le temple où Jésus était condamné. Et Paul lui dit que ça, ce qu'il a fait, le fait qu'il se soit dérobé, ce n'est pas dans l'esprit de l'Évangile. Et Pierre le reconnaît. Alors c'est un détail qui n'est pas si grave, mais qui nous montre que la conversion transforme un homme, certes, mais qu'il reste des zones pour cet homme ou cette femme à conquérir malgré tout, à travailler. Oui, Pierre, de l'après-Pentecôte, est un homme nouveau, mais il doit encore travailler à ses tendances ou à sa tendance à prendre la tangente, à choisir la facilité. Même Pierre, le solide, le roc, doit encore apprendre à grandir dans la foi. Alors c'est donc ce Pierre, ancien pêcheur au filet, devenu pêcheur d'hommes, qui reste pêcheur, avec un accent aigu, sous la grâce, c'est cet homme qui est passé au travers de toutes ces expériences un peu particulières qui va nous écrire une lettre. Et je dis « nous » parce que Pierre l'adresse à tous les élus qui sont dans la région de l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie du côté asiatique actuel. Et le terme « élu » est intéressant à relever parce que, et j'ouvre ma Bible dans 1 Pierre 2, parce que je n'ai pas mis le 1 Pierre 1, pardon. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du pont de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance. Et c'est intéressant, cette salutation, parce que d'habitude, en tout cas Paul, dans ses lettres, il s'adresse aux chrétiens où il utilise le terme « saint », les saints qui sont à Colosse ou à Philippe. Mais là, Pierre s'adresse à ceux qui, et les appelle les élus, les choisis par Dieu. Et cela revient au même que le mot « saint », mais si Pierre parle de ceux qui ont été choisis par Dieu, c'est pour mettre l'accent sur le choix protecteur de Dieu, non pas une élection qui nous permettrait de nous vanter « moi j'ai été élu », au suffrage universel, non, mais une élection pour se sentir protégé par Dieu, être au bénéfice du soin de Dieu. Et les destinataires de l'époque ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils ne sont pas ici par hasard, et ils ont besoin qu'on leur rappelle parce qu'ils vivent des temps difficiles, et il y a un mot qui parle de cette difficulté, c'est le mot dispersion. Ils sont dispersés. Et c'est le deuxième mot qui décrit les destinataires. Ils sont dans la dispersion, la fameuse diaspora. Je dis fameuse parce qu'on connaît la diaspora juive, c'est-à-dire toutes les communautés juives qui ne sont pas de Palestine. C'est ça qu'on appelle, qui ne sont pas en Palestine. Il y avait une communauté importante de juifs à Alexandrie, par exemple. Mais là, Pierre va utiliser le mot diaspora, qui est réservé à la diaspora juive, pour les chrétiens. Pour les chrétiens d'Asie mineure, et il va leur dire, et c'est la première fois, vous êtes la diaspora chrétienne. Il y a un point positif dans le mot diaspora, c'est qu'ils sont aimés de Dieu, choisis ou élus par le Dieu de l'histoire, mais le point négatif, c'est qu'ils sont disséminés, dispersés dans tout l'Empire romain, et ces communautés chrétiennes en Asie mineure, elles sont quantité négligeable, elles ne représentent aucune puissance politique, économique ou même culturelle, elles sont perdues dans un monde laïque ou païen, sans Dieu. Et j'utilise le mot laïque pour faire le parallèle un peu avec notre société d'aujourd'hui, 21e siècle, une société laïque, laïcisante, laïcarde, où la laïcité n'est plus du tout la tolérance, mais une laïcité fermée, presque une religion carrément. Et donc, comme à l'époque, le christianisme aujourd'hui n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Comme à l'époque, le christianisme est optionnel et il faut être téméraire pour choisir cette option parce que, comme dit le troisième mot pour décrire les chrétiens destinataires, les chrétiens sont des résidents temporaires, des hôtes de passage. Et Paul, là, utilise, Pierre, un mot grec très particulier qui nous parle, et il décrit les chrétiens d'Asie mineure comme cela. Le mot grec parle d'un homme qui est en séjour limité, qui est dans un pays qui n'est pas le sien, qui est sans statut, ni protection légale, qui est juste toléré. Et il y a d'autres traductions qui parlent d'étrangers, d'hôtes de passage, d'immigrants, d'immigrés. Pierre utilise ce mot pour décrire les chrétiens d'Asie mineure et nous peut-être, nous sommes des résidents temporaires, des hôtes de passage, sans statut ni protection légale, juste tolérés, immigrés, étrangers. Il faut savoir qu'à l'époque, s'il n'y a pas encore de persécution générale, il y a quand même, de la part de l'Empire romain et de la population, une espèce d'ostracisme des chrétiens, de mise à l'écart des chrétiens. À Rome, on est dans l'année 64. Pierre rédige cette lettre en 64. Et en 64, je ne sais pas si vous vous souvenez, il se passe quelque chose à Rome. Rome est incendiée et Néron, l'empereur romain, accuse les chrétiens. Et à partir de là, la persécution envers les chrétiens va s'accentuer et se généraliser. Et donc Pierre écrit à ces immigrés dispersés, sans aucun droit et qui sont à la merci de n'importe quel persécuteur. Et on pourrait appeler cette lettre de Pierre la lettre aux immigrés, aux résidents temporaires, aux hôtes de passage. Mais il me semble que Pierre va un petit peu au-delà, quand il choisit ce mot, va un petit peu au-delà des circonstances pénibles que vivent les chrétiens. Et un peu plus tard, il va dire au chapitre 2, « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage, comme si il s'agissait d'une situation qui serait un peu normale, voire inévitable pour ceux qui vivent la foi. Vous êtes, parce que vous êtes chrétiens, des gens de passage, des résidents temporaires. » Et Abraham, le père de la foi, le disait déjà. Quand il est en pays hittite, en pays de Canaan déjà, dans le pays promis, pour arranger la sépulture de sa femme Sarah, il va dire « Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler d'Abraham, le père de la foi, qui est un résident temporaire dans le pays promis. Lisons ensemble, par la foi, Abraham a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, avec aussi Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse, mais ils ont reconnu tous les trois qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Et vous avez remarqué qu'on parle de trois personnes, Abraham, Isaac et Jacob. Et dans l'Ancien Testament, pour définir Dieu, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ces trois patriarches étaient des résidents temporaires, des voyageurs sur cette terre ou des pèlerins, des gens qui ne sont pas chez eux et qui le savent bien. Et derrière le mot donc résident temporaire de 1 Pierre verset 1, il y a cette idée de situation difficile, d'être considéré comme un étranger, juste toléré sans plus, mais pas les mêmes droits que le citoyen, une situation précaire, mais aussi l'idée de l'attente d'une autre cité. Résident temporaire, parce qu'on est en attente d'une autre cité. Cette cité, Abraham l'attendait, car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. » Nous sommes tous des immigrés ici, en tant que chrétiens, parce que notre véritable patrie est avec Dieu. Nous sommes tous des résidents temporaires parce que notre cité est avec Dieu. C'est la cité de Dieu, comme le disait saint Augustin. Alors on parle aujourd'hui beaucoup de la double citoyenneté pour le chrétien, à la fois citoyen du monde, mais aussi citoyen du ciel. Et j'aime cette image qui dit que le chrétien, il a la tête dans les nuages, mais les pieds bien sur terre. Doublement citoyen. Et c'est sûr qu'il ne faut pas avoir trop la tête dans les nuages, sinon on perd pied et il faut rester en contact avec la réalité. Mais en même temps, j'ai parfois l'impression que nous oublions bien vite, en tout cas moi, j'oublie vite, que ma citoyenneté, que ma véritable identité n'est pas dans les étiquettes que le monde me donne, mais qu'elle est en Dieu. Que ma véritable nationalité n'est pas, ou ma nation, ma patrie, ce n'est ni la Hollande, ni la France, ni le Béarn, libre et indépendant, ou n'importe quel autre lieu, c'est pas ça qui me définit, mais que ma patrie est en Dieu. Et il me semble que je devrais peut-être apprendre ou réapprendre à me considérer comme un résident temporaire, comme Abraham, Isaac et Jacob, et tous les destinataires de la lettre de Pierre aux immigrés. Et il me semble que retrouver cette citoyenneté céleste ou s'en approcher de nouveau, y réfléchir encore, va avoir quelques conséquences. Et pour terminer, j'aimerais en citer quelques-unes. Conséquences d'une meilleure compréhension de la résidence temporaire. Excusez-moi du titre, il n'est pas terrible. Les conséquences, entre guillemets, d'une résidence temporaire. Et la première conséquence, elle est évidente, une certaine relativisation des choses de ce monde. Parce que nous sommes des résidents temporaires, on ne va pas trop s'attacher aux choses de ce monde, au contraire, aux biens matériels, par exemple, ou à la réussite sociale, ou par rapport à la course au pouvoir et au succès, par rapport à cette pulsion de ce monde à vouloir tout gagner et avoir sa Rolex à 50 ans, etc. Quand on est résident temporaire sur cette terre, on va apprendre à relativiser les choses de ce monde. Même la défaite de la section paloise hier soir contre Toulouse peut être relativisée. Après tout, moi ça me fait mal à chaque fois, mais après tout je me dis, je ne fais pas partie du monde de l'Ovalie. Ma cité céleste, ma cité est en Dieu. Alors, relativiser le mot est délicat à manier. Cela ne veut pas dire qu'il faut échapper aux contraintes de ce monde. Il faut avoir évidemment une maison pour dormir, des habits pour se vêtir, de la nourriture pour s'alimenter, des loisirs même pour se reposer. Mais cela veut dire de garder quand même une certaine distance par rapport à cela, une distanciation par rapport à cela, d'autant que Jésus lui-même a dit, dans une conversation avec ses disciples, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mon royaume n'est pas de ce monde, et plus loin, il dit, si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour moi. On se serait battus pour ce monde. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Une certaine relativisation, une certaine distanciation. Et j'aime ce verset aussi que Job dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. ça relativise pas mal au niveau des choses de ce monde. On n'emporte rien. Et cette relativisation peut aller très loin jusqu'à la question de la souffrance. Et là encore, c'est très délicat à manier parce que cela pourrait être pris pour une sorte de manipulation. Souffrez sans rien dire, il y a une cité qui vous attend. Mais la Bible quand même le fait, relativise les souffrances de ce monde, non pas pour nous dire de courber les chines ou de ne rien faire pour diminuer la souffrance dans ce monde, mais simplement pour vivre cette souffrance différemment quand elle arrive, et elle arrive. Parce que Paul dit, et Paul dit dans ce sens-là, dans Romains 8, 18, il y a Romains 8, 28, mais il y a aussi Romains 8, 18, il n'y a aucune mesure, aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Les souffrances du temps présent sont bien présentes et il ne s'agit pas de les nier, mais la gloire à venir les dépasse de tellement loin qu'on pourrait les relativiser, les souffrances du temps présent. Et attention, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui souffre, tu sais, tu dois relativiser. C'est pas ça. Ce serait manquer de la plus simple délicatesse et même d'amour, tout simplement. Il s'agit de, pour chacun, de vivre cette citoyenneté céleste de manière plus intense, plus concrète, dans le sens où elle peut avoir des conséquences dans ma vie, dans les domaines les plus intimes et les plus sensibles de mon être. Une certaine relativisation des choses, entre guillemets, de ce monde, c'est la première conséquence de cette citoyenneté céleste. Notre patrie est dans les cieux. Et une autre conséquence, c'est une recherche certaine, une certaine relativisation des choses d'en bas, et une recherche certaine des choses d'en haut. Quand vous demandez en Belgique, quand vous posez une question sur l'investissement, en quoi il faut investir, on vous répondrait rapidement, et je pense que c'est un peu la même chose ici, il faut investir dans du dur. Il faut investir dans de la brique en Belgique. C'est la brique, les briques rouges. Dans du solide. Eh bien, ce conseil vaut aussi pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et en Dieu. Investissez non pas dans le dur, mais dans les choses qui durent. Dans les choses d'en haut. Et Pierre le dit dans le deuxième passage, où il parle de cette cité céleste. Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, c'est pourquoi ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, vous voyez, c'est pourquoi, parce que vous êtes des résidents temporaires, investissez dans des choses importantes. Et on se souvient aussi de Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu, les choses d'en haut. La relation avec Dieu, la relation avec les autres, et aussi le témoignage, c'est ce qui est dit dans 1 Pierre 2, ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient, c'est la situation en Asie mineure, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu pour le jour où il interviendra dans leur vie. Et je souligne le côté témoignage dans le texte de Pierre. Ayez une bonne conduite parmi les gens sans Dieu. Il est question d'être, non pas de ne rien faire en attendant la cité céleste, mais d'être des ambassadeurs de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans ce monde qui est là. C'est ça, investir dans les choses d'en haut, dans les choses qui durent. Faites-vous des amis avec l'argent injuste. Avec le fric, c'est ça le sens de cette expression dans l'Évangile, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles célestes, c'est Jésus qui parle. Investissez dans les gens, dans les choses d'en haut, être par son témoignage, donner l'envie d'y être, montrer que ça vaut la peine d'être dans cette cité, dans cette autre, dans ces choses d'en haut. Alors, Martine, tu étais là mardi dernier, ils ont servi de cobaye pour cette prédication. Et on a parlé de ça, de cette double citoyenneté, enfin de cette cité dans les cieux. Et il y en a un qui disait, ouais, et ici, il ne faut pas laisser de traces, il faut faire profil bas presque. Et aucun de ceux qui étaient là était d'accord avec cette pauvre personne qui disait cela, mais je pense qu'il le disait dans un autre sens. Et au contraire, Il y en a un qui a dit, on est là pour délivrer les passeports pour cette nouvelle cité, d'être des ambassadeurs pour la cité de Dieu. Et puis, pour cette autre patrie. Et puis, il y a une troisième conséquence qui va vous paraître un peu surprenante, mais qui est tout à fait dans la ligne biblique. Et cette conséquence, la conséquence d'une résidence temporaire, de cette notion que nous sommes des résidents temporaires, c'est une certaine sensibilité par rapport aux autres émigrés ou aux étrangers. On trouve dans l'Ancien Testament beaucoup de commandements sur l'accueil de l'étranger. Et à chaque fois, il est donné comme motivation pour étayer ce commandement. Et cette motivation, c'est le fait que vous avez été vous-même étranger. Allez, je donne un exemple, Deutéronome 10, 19. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étranger en Égypte. Car vous avez été immigré en Égypte. Et puis, deuxième Exode 23, 9, tu n'opprimeras pas l'étranger qui travaille dans ton pays. Vous savez vous-même ce qu'éprouve un étranger. Vous l'avez été. Et donc, parce que nous sommes résidents temporaires, immigrés, selon la lettre de Pierre, nous avons une sensibilité à développer par rapport aux immigrés d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu pas mal, et je l'ai, histoire d'un exil. Alors, ce n'est pas l'exil à Babylone, c'est l'exil des protestants français. À la révocation de l'édit de Nantes en 1685, si je ne m'abuse, oui, quelque chose comme ça, par le roi Soleil, Louis XIV, qui a révoqué l'édit de Nantes, qui avait été l'édit de tolérance, qui avait été émis par Henri IV, le bon roi. Mais le roi Soleil l'a révoqué, et donc les protestants français sont partis en exil, sont partis trouver refuge dans les pays de refuge, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse. Voltaire évoque ainsi l'exil de plus de 800 000 personnes. Mais aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent sur un nombre compris entre 150 000 et 160 000 réfugiés pour les 15 dernières années du XVIIe siècle. Et il y a un extrait très intéressant. Et donc, les pays limitrophes, il y a aussi l'Angleterre et les États-Unis qui ont accueilli ces personnes. Et il y a un prince allemand, Frédéric Guillaume de Brandebourg, dit le grand électeur, qui était un prince calviniste d'un peuple majoritairement luthérien. Et l'accueil de réfugiés réformés permet aussi de rétablir un certain équilibre religieux dans son Länder. Et en 1700, un quart de la population de Berlin est composée de huguenots. Un quart. C'est important. Et l'accueil des réfugiés par les populations locales, en revanche, est loin d'être aussi enthousiaste que le grand électeur. Que ce soit en Angleterre, dans les États allemands ou dans les cantons suisses, des manifestations de xénophobie, donc à l'égard des protestants français qui sont dans ces pays, ont lieu et visent le plus souvent deux représentations de huguenots, celle de l'assisté et celle du concurrent économique. Les pasteurs français ne sont pas épargnés. À la toute fin du XVIIe siècle, les étudiants de l'Académie de Lausanne les accusent ainsi d'accaparer les postes pastoraux. Ces tensions vont d'ailleurs pousser les autorités des cantons suisses à renvoyer les nouveaux réfugiés en direction des États allemands. Allez voir plus loin. On ne veut pas vous ici parce que vous nous piquez le travail des pasteurs suisses. Et, chrétiens, nous sommes résidents temporaires. Protestants, nous avons été immigrés dans des villes de refuge. Nous pouvons avoir une certaine sensibilité à l'égard des immigrés d'aujourd'hui. Et il y a cette parole de Jésus qui apparaît dans son sermon sur la fin des temps. « Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. » Et Jésus ne nous identifie pas, ne nous demande pas d'accueillir les étrangers parce que nous avons été étrangers quelque part, mais il s'identifie, lui, à l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses Jésus, le « et » de Jésus et l'étranger. On aurait pu mettre une virgule, Jésus, l'étranger. Comment on a accueilli l'étranger ? on ne l'a pas fait. Comment tu sais qu'on l'a accueilli ? Et Jésus répond, une fois que vous le faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors la question de l'immigration est une question bien complexe. La question des réfugiés aussi, des migrants également. Le démantèlement de Calais pose problème. Et il n'est pas question ici de donner des solutions toutes simples ou simplistes ou de tomber dans l'angélisme. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non, personne n'est vraiment beau. Personne n'est vraiment totalement gentil. Et la question des réfugiés soulève bien des questions et des peurs aussi légitimes ou pas. Et la question des réfugiés est aussi récupérée par la politique. Oui. Mais il me semble que de notre côté, du côté de notre citoyenneté céleste, de notre côté, du côté de notre identité chrétienne, et en ce qui concerne l'étranger qui vient à moi, le réfugié qui est là, l'immigré qui est mon prochain, je vais développer en tant que chrétien, parce que je suis citoyen céleste, une sensibilité particulière. Je vais avoir un a priori, non pas de fermeture et de peur, mais un a priori positif, un a priori d'accueil de l'autre, de l'étranger, de l'immigré. Parce que je suis de la cité céleste, je vais regarder les choses et les autres et mon prochain de manière un peu différente. Parce que je suis moi-même un chrétien immigré dans ce monde qui ne m'appartient pas et à qui je n'appartiens pas non plus. Parce que Jésus est cet étranger qui demande d'être accueilli, je veux accueillir l'étranger, l'immigré, le réfugié. Les conséquences d'une résidence temporaire, une certaine relativisation des choses de ce monde, une recherche certaine des choses de la cité d'en haut, une sensibilité particulière par rapport aux immigrés. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole qui nous ouvre un chemin comme on l'a chanté tout à l'heure. Nous continuerons l'étude de l'épître de Pierre pendant cet hiver et peut-être le printemps 2017.